Émission sympa et potache. Depuis quelques années, les étudiants de l'IUT de Digne se succèdent à nos micros pour des émissions décontractées. Ils pratiquent en radio une discipline orale qui leur est utile dans leur cursus. Le 20 mars, Margot, Clarisse, Maxime, Mathilde, Elora et Antonin prenaient l'antenne pour leur 6e émission.
H30, c'est Fréquence Mistral, vous écoutez Les Indignes sur 99.3. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur la première radio étudiante de Digne-les-Bains et c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. On vous rappelle que tous les deuxièmes mercredis du mois, on vous retrouve avec vous de 20h30 à 21h30. Donc là, c'est pas le cas, mais normalement, c'est le cas. On a eu quelques problèmes avec les vacances. Au programme ce soir, beaucoup de choses qui nous attendent, que ça soit culture, société, en début. Puis on aura info, humour au milieu d'émission. Et restez avec nous jusqu'à la fin d'émission, car nous terminerons par l'invité surprise du jour qui clôturera notre émission. Et tout ça, bien sûr, en présence de notre cher team indigne qui est avec nous. On retrouve Max.
Fidèle au poste, ça va
bien. Et Laura qui est toujours avec nous.
Bonsoir.
Margot, salut Margot.
Bah, toujours là, malgré l'équipe
toujours
qui est
là.
Chaotique. Hein.
Chaotique. Merci Poletti. Clarisse.
Salut les loulous.
Et on a Mathilde. De retour sur Fréquence Mistral, vous écoutez Les Indignes sur 99.3. Rebonsoir.
Rebonsoir.
Nous sommes en présence de notre team et nous allons commencer par une petite culture, comme d'habitude, une petite rubrique culturelle avec les filles. Et Margot, Salut Margot.
Yes, rebonjour.
Rebonjour Margot. Une petite rubrique culturelle. Qu'est-ce que tu veux nous parler, toi, Margot, ce soir ?
Alors moi, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un podcast que j'aime bien. Enfin, c'est une série de podcasts qui est fait par l'équipe de Mademoiselle, qui est une agence de journalistes, on va dire, qui traite beaucoup des sujets des femmes, etc. Mais aussi des sujets des hommes, puisque en gros c'est un podcast sur le masculinisme, donc sur le rapport à la masculinité, etc. Et c'est un interview qui est fait par le directeur du journal Mademoiselle, ainsi que une des rédactrices de ce journal-là, enfin qui est un journal mais en même temps un média. Et un journal, un média, mais aussi un site internet et oui. Un site où ils font des vidéos. D'accord. Et du coup, ces deux personnes-là interviewent à chaque podcast un homme. Ça peut être un homme cisgenre, donc un homme qui a un genre qui correspond à ses organes génitaux d'après les normes sociales, mais aussi un homme non-cis, c'est-à-dire un homme qui peut être transgenre, par exemple. Et du coup, il les interroge sur son rapport à la masculinité, sa vision du fait d'être masculin, du fait d'être un homme dans la société, etc. Et sur aussi la sexualité quand on est un homme, etc. Et je trouve que c'est un podcast qui est hyper intéressant. Ouais. Et voilà, donc je vous conseille les podcasts, vous pouvez les retrouver sur Apple Podcasts, ou après sinon il y a plein d'applications de podcast, ou aussi sur YouTube, on peut les retrouver, ces podcasts là du coup ça fait beaucoup de fois le mot podcast mais franchement c'est cool, donc je vous conseille grandement cette émission là du coup, ça s'appelle The Boys Club par Mademoiselle, The Boys Club, THE espace BOYS espace CLUB, voilà.
Très bien, si vous nous entendez, vous foncez sur YouTube, d'abord vous nous écoutez et après vous irez sur YouTube
chaque
écouter les podcasts
en son temps.
Exactement.
Clarisse.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir Clarisse.
Alors moi, j'aimerais vous parler de chaîne YouTube qui traite sur le thème de la science.
Très bien.
Alors il y en a deux dont j'aimerais parler.
Ouais.
La première c'est Astrolab. Donc en gros c'est un YouTuber qui parle de nouvelles scientifiques qui sont hebdomadaires. Comme par exemple, il a fait une vidéo sur les souris qui ont des particules en gros elles peuvent avoir une vision infrarouge. Et du coup, il pense appliquer ça à l'homme pour que l'homme puisse voir dans le noir.
Oui.
Et aussi, il y a une vidéo sur le réchauffement climatique, comme quoi on peut inverser le réchauffement climatique en transformant le CO2 en charbon. Et ça utilise peu d'énergie, mais c'est pas encore fait.
C'est pas encore développé.
Ça sera dans longtemps.
D'accord.
Elle s'appelle comment la chaîne ?
Intéressant.
C'est Astrolab.
Astrolab, ok, nice. D'accord. Et je pense je vais essayer de répertorier tous les trucs culturels dans la mesure du possible sur la page Facebook, qui est facebook.com/lesindines04. Du coup, si vous êtes intéressé par ce dont
produit,
on parle,
très belle promo.
N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook.
Voilà, et je peux finir.
Très bien. Ah, mais j'avais pas
deuxième chaîne, c'est Dirty Biology. Donc, c'est aussi sur la science, et c'est divers sujets qui... Il y a un peu d'humour avec. Par exemple, dans une vidéo, il parle d'une île d'un archipel dans l'océan Indien, dans laquelle un peuple chasseur-cueilleur, donc qui s'appelle les Sentinelles, a évolué complètement coupé du monde. Et donc, ils ont été découverts en 1960, un truc comme ça. Et c'est l'un des derniers peuples vivants en autarcie, donc il parle des choses comme ça. Mais aussi d'archéologie comme quoi... l'archéologie spatiale, pardon. Comme quoi les chercheurs, ils utilisent des lasers pour mettre le sol sur une carte en détail, et ils ont découvert grâce à ça d'anciennes routes romaines oubliées. Ils ont détecté des vestiges, et ils ont aussi, je pense que c'est leur plus grosse découverte qui est connue, c'est les géoglyphes, donc c'est des inscriptions dans le sol qui peuvent faire plus de 400 mètres, et en gros ça se voit par satellite. Voilà, et je trouve que c'est super intéressant, il y a beaucoup de vidéos.
C'est
là c'est vraiment 1% des sujets.
L'autre grosse invention,
c'est
le feu.
Tu peux nous rappeler le nom, s'il te plaît, Clarisse ?
C'est Dirty Biology, et l'autre, Dirty c'était Biology. Astrolab.
Voilà. Très bien. Et Laura ?
Alors, salut. Moi, je vais pas du tout parler d'une chaîne YouTube. Hein. je vais parler d'une série. Alors, une série qui est sortie pour la première fois en 1997 et qui s'est terminée en 2003, donc c'est plus trop d'actualité.
Ça fait de l'amour, non ?
C'est plus du tout d'actualité, c'est Buffy.
C'est presque pareil. Dis-nous tout, Laura.
Non, justement, je vous résume brièvement pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'histoire d'une adolescente qui est dotée de pouvoirs surnaturels et qui en fait a la mission de chasser les vampires et toutes les créatures du monde occulte et du mal en fait. Donc ça peut paraître très adolescent et bah, ça l'est un peu, c'est vrai, moi j'ai commencé à regarder ça, j'avais genre 12 ans. Mais en fait, si on creuse un petit peu, c'est une série qui est très très avant-gardiste, ne serait-ce qu'au niveau du féminisme, c'est une série où toutes les femmes sont vraiment mises en avant.
Ah, ça c'est top.
Ça déjà c'est top, je sais que vous aimez ça, puis surtout, voilà, ne serait-ce que le personnage principal qui est doté, qui est l'élu, c'est une femme, rien que ça pour les séries de l'époque, c'était une grande révolution. Puis c'est aussi une série avant-gardiste parce que par exemple, c'est la première série dans laquelle on a eu un personnage principal homosexuel. Et en fait, c'est une série qui aborde énormément de grands thèmes, de société, des choses dont on ne se rend pas forcément compte au premier abord quand on la regarde. On se dit oui, il y a de la bagarre et tout, c'est trop bien. Ouais. Et puis au final, il y a énormément de thèmes qui sont abordés, des trucs très sérieux et il faut creuser un peu. C'est une série qui est même étudiée dans quelques facultés américaines.
Ah ouais.
Bah oui, les personnages, ils ont vraiment une complexité, genre des mécanismes de pensée qui sont assez, assez hallucinants. Donc voilà, moi si je vous donne un conseil, bah, allez checker ça, c'est super, c'est divertissant.
Est-ce qu'elle est sur Netflix?
Non, alors elle n'est pas sur Netflix. Après, ça se trouve quand même plutôt facilement, c'est encore diffusé à la télé.
Ouais.
Donc vous ne devriez pas avoir de mal à la trouver. Moi je vous la conseille, c'est une série qui est vraiment top et qui vous apprendra beaucoup de choses sur la vie et sur vous-même.
Très bien, hâte de voir ça alors. Mathilde,
oui.
Bonjour Mathilde.
Mais rebonjour. Du coup, moi, je vais vous parler d'un chorégraphe de danse moderne, parce que tout simplement, je suis très sensible à la danse et je trouve que c'est l'art qui peut tout dire en ne disant aucun mot et juste pour parler avec son corps.
Oh, c'est beau.
Et juste vous parler du coup d'un chorégraphe qui est très difficile à prononcer le nom, donc désolé si j'arrache son nom.
S'il nous écoute.
Voilà, c'est Sidi Larbi Cherkaoui. Voilà. J'ai totalement détruit ce nom. Et je veux juste vous dire d'aller voir sur YouTube un peu ce qu'il fait parce que je trouve que c'est vraiment top. Et au niveau de la danse contemporaine, ça a été une très grande avancée. Et c'est pas de la danse contemporaine comme on pense avec des gens qui sont tout nus et qui font des trucs bizarres. Donc si vous êtes un minimum sensible et que vous aimez bien l'univers de la danse, vraiment je vous conseille d'aller voir ce chorégraphe sur YouTube ou sur Internet en général parce qu'il fait vraiment des choses extraordinaires.
Et
voilà,
Et pour les insensibles, on fait comment?
Bah, tu peux quand même aller voir. Vraiment, allez voir, c'est une bonne approche de la danse si vous voulez commencer.
Ça va gérer, ça va peut-être m'ouvrir les yeux.
Je pense que ça peut t'ouvrir les yeux, je te jure. Voilà.
Très bien. Aussi, parce que ça a l'air extrêmement compliqué.
Oui, puis c'est vraiment.
Ne serait-ce que pour taper son nom sur YouTube, je crois que je vais abandonner.
Je pense rien que ça, c'est une épreuve.
Eh bah, ben très bien, on a fini ce petit tour culturel de table pour vous les filles. Et on enchaîne sans transition avec Margot, une petite rubrique de Margot. Margot, t'avais quelque chose à nous dire de très important.
Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué récemment. Le média Combini a mis en ligne une vidéo le 5 mars dernier.
Quel média?
Combini, qui est une chaîne qui poste beaucoup sur les réseaux, etc., sur Facebook, et c'est très 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 connu. Enfin bref.
Très bien.
Et ce n'est pas le sujet. Et c'est une vidéo du coup publiée par Combini, qui est d'un interview d'Anne Ratier par Hugo Clément. Et interview dans laquelle elle raconte comment et pourquoi elle a tué Frédéric, son fils handicapé, juste avant ses 3 ans. Et tout ceci sans remise en question de la part du journaliste, sans aucun recul et sans aucune voix qui s'élève pour faire entendre l'indécence des propos d'Anne Ratier. Un des premiers termes utilisés dans cette vidéo, c'est « offrir la mort », comme on offrirait un jouet lors d'un anniversaire, alors que là, on parle bien de tuer une personne. Un assassinat n'est pas un cadeau, je pense que ça coule de source pour beaucoup, et encore moins pour quelqu'un qui ne l'a pas voulu ni décidé. Dans la vidéo, Anne Ratier utilise uniquement des euphémismes, parce que ça n'a rien à voir avec des euphorismes, des euphémismes pour atténuer la gravité de l'acte, parce qu'il s'agit d'un enfant handicapé. D'ailleurs, il n'est pas uniquement qualifié d'enfant handicapé, mais de lourdement handicapé, comme s'il y avait un stade à partir duquel l'enfant a le droit d'être tué, enfin, où son droit de vie est disparaît, quoi. Et du coup, ouais, c'est vraiment comme s'il y avait un moment où l'handicap était trop lourd et il valait mieux mourir sans avoir le droit de décider pour soi de vivre ou non. Les justifications sont vite demandées d'ailleurs par le journaliste et amenées par Anne Ratier qui dit qu'il ne pouvait pas marcher, se tenir seul, il ne pouvait pas comprendre d'où venait le bruit, il ne pouvait pas comprendre pour manger, etc., car son cerveau avait été en partie détruit à la naissance. Et Anne Ratier conclut donc que c'était même pas une vie, c'est donc une personne valide, donc une personne qui n'a pas d'handicap, qui décide à la place de son enfant s'il doit vivre ou non, et si sa vie en est vraiment une ou non. bien trop souvent les valides pensent que je veux un enfant sous-entend je veux un enfant valide et donc et que c'est naturel de rejeter son enfant s'il est handicapé car la vie des personnes handicapées est perçue comme ayant moins de valeur que celle par exemple des enfants valides alors que enfin ça n'a pas de sens de dire ça. Cette décision est bien entendu prise par des personnes valides, pour les personnes valides, entre personnes valides. L'interview illustre bien ça, c'est donc deux personnes valides, encore une fois, qui discutent tranquillement du meurtre que l'une d'entre elles a commis en tuant son enfant. Impensable si l'enfant en question aurait été un enfant valide. Et elle raconte du coup la peur permanente, Anrati raconte la peur permanente qu'elle avait à l'égard de son enfant, elle avait peur qu'il meure en le posant, etc. Donc elle justifie le fait de l'avoir tué par sa peur, sa propre peur, etc. Et elle parle de relations fusionnelles, dit que ce qu'elle aimerait bien qu'on fasse pour elle, si on l'aime, c'est qu'on la tue si elle était dans cette position-là. La justification du meurtre, du coup, elle prend réellement racine dans l'amour qu'Anrati porte à son enfant. Le meurtre est romantisé parce qu'il s'agit du coup d'un handicap qui est raconté dans cette interview. Comme souvent, on considère que le handicap est pire que la mort, etc., dans une société qui est validiste, donc c'est-à-dire qui favorise les personnes valides et qui, justement, ou plutôt défavorise les personnes valides et n'adapte pas du tout sa société à ça. D'autant plus qu'on ne sait pas si l'enfant, pouvait comprendre ou pas ce qui se passait. Elle part aussi d'un point qui visiblement l'a marqué. Quand elle lançait son enfant en l'air, il riait aux éclats. Son médecin, lui aussi validiste, parce que bon, enfin, pourquoi pas, lui montre qu'il fait pareil quand lui le lance en l'air. Et donc, ce n'est pas forcément le fait que sa mère le lance en l'air qui fait qu'il rigole, etc. Du coup, elle se sent blessée et elle va considérer que son enfant ne le reconnaît pas quand elle le lance en l'air et qu'il rigole. Enfin bref, c'est vraiment un problème d'ego qui vient là. Du coup, elle se sent blessée. On arrive au moment où elle prononce ces mots, où elle dit qu'elle devait déclarer forfait. C'est une phrase de plus qui montre que cette décision la décision de tuer son enfant ne tourne qu'autour de son ressenti, de ses envies, etc. Elle doit déclarer forfait parce que c'est trop dur pour elle, sans penser à la vie de son fils. Il y a également un court passage sur les centres d'accueil pour les personnes handicapées et les conditions inhumaines d'accueil où le journaliste demande quelle aurait été sa vie s'il ne l'avait pas tué et elle répond que sa vie aurait été dans un centre sans bouger. En effet, il y a de nombreux problèmes autour de l'institutionnalisation, du déni d'autonomie des personnes handicapées, les maltraitances, etc. Mais c'est en aucun cas une solution face à ces maltraitances de tuer son enfant et de décider qu'on a le droit de vie ou de mort sur son fils. La solution, même si elle est loin d'être facile ou rapide, c'est de militer pour une meilleure autonomie, une meilleure prise en charge des besoins des personnes handicapées, un meilleur accompagnement de la famille et de l'entourage, tout en se souvenant que la priorité doit être mise sur la personne handicapée et non pas sur l'entourage à qui on donne beaucoup de compassion, etc., alors que le premier considéré, en fin de compte, c'est l'handicapé. Non pas qu'on ne doive pas considérer l'entourage, mais encore une fois, les valides se soutiennent entre elles, entre eux, et les handicapés sont laissés de côté, oubliés ou méprisés. Et dans l'interview, on en arrive donc à la description de l'assassinat en détail, avec la question du journaliste qui demande l'acte en lui-même, comment ça s'est passé. Bonjour, le voyeurisme malsain qui fait gentiment frissonner les valides en manque d'adrénaline, quoi. On apprend donc qu'elle a empoisonné Frédéric et qu'il a mis 3 jours à mourir, 3 jours à agoniser. Et à nouveau, Anrati en remet une couche en disant que la vie doit avoir une dignité. Donc là, encore une fois, on peut se demander à quel moment on peut parler de dignité quand on agonise pendant 3 jours avant de mourir, quoi. Et ensuite, elle dit qu'on ne peut pas avoir de vie à tout prix. Donc elle pense qu'elle a le droit de vie et de mort sur son enfant et qu'elle a bien fait de le tuer parce que sa vie n'avait pas le juste prix selon elle. Et dans ce moment-là, Hugo Clément lui demande, lui rappelle que cet acte, le fait qu'elle ait tué son fils, c'était il y a 32 ans, et que le délai de prescription est de 30 ans pour cet acte. Elle demande si c'était volontaire d'avoir attendu la fin de la prescription pour publier le livre, et elle dit que non. Du coup, on a affaire soit à une personne qui ment pour se dédouaner et qui a bien calculé son coût sur les délais, soit à une personne qui croit encore profondément au bien fondé de son meurtre et qui se croit dans une impunité telle qu'elle pense passer au-dessus de la loi. Donc voilà, et ensuite, suite à cela, l'intervieweur lui parle des gens très croyants qui sont contre le fait de tuer son enfant s'il est handicapé, etc. Et là, du coup, encore une fois dans l'interview, enfin pas encore une fois, mais je veux dire encore une fois, les arguments sont un peu discutables et on oppose un meurtre validiste au point de vue d'une partie croyante et conservatrice de la population pour faire passer cette... assassinat pour un acte résolument moderne, un progrès, en oubliant bien entendu que tous les militants et toutes les militantes handicapées, pour la plupart, sont bien souvent à l'opposé politique de la droite catholique qui dénonce ces meurtres validistes sur lesquels la société ferme les yeux. Et du coup, Anne Ratier dit aussi qu'elle se met à la place de celui qui est dans cet état, et la vidéo se termine sur cette phrase où elle dit « Je sais qu'il ne souffre plus », alors qu'à aucun moment dans l'interview, elle parle de la souffrance de Frédéric. Il est seulement mentionné en coup de vent à un moment qu'il fait de l'épilepsie et qu'il a du mal à ouvrir la bouche pour manger, mais sinon toute l'interview tourne autour de sa souffrance à elle, de la difficulté qu'elle a à accepter le fait d'avoir un fils handicapé, etc. Elle a tué son enfant pour être soulagée d'elle, en gros c'est ce qui en ressort de ses propos. Il n'y a aucune remise en question de ce meurtre par Hugo Clément et Combini. C'est une vitrine qui lui est offerte pour faire la promotion d'un livre validiste et malsain, pour se faire de l'argent autour d'un meurtre prémédité de son fils. Jamais une telle campagne publicitaire ne serait acceptée s'il s'agissait de l'assassinat d'un enfant valide dont les parents n'arriveraient pas à s'occuper. Et au-delà de ce meurtre précis, une telle publicité sans aucune question posée, sans aucune opposition, va décomplexer d'autres parents qui ont déjà eu un jour ces pensées ou qui ont fait du mal à leur enfant, qui voudraient également assassiner leur enfant parce que trop handicapé à leur goût. Et ça n'est pas seulement immonde, mais aussi très dangereux pour la sécurité des personnes handicapées de tolérer ces violences et ces meurtres. Quant au suicide assisté, c'est un autre sujet qui n'a rien à voir, car là, l'enfant n'a pas choisi de son plein gré de mettre fin à ses jours. Et du coup, je me doute que cet article ne va pas changer le monde, ni Combini, ni Hugo Clément, mais j'espère qu'il va pouvoir aider les personnes valides à comprendre un peu mieux comment déjouer cette rhétorique si dangereuse qui entoure les meurtres des personnes handicapées par leurs proches et qui sont justifiées comme étant dans l'intérêt de la personne handicapée, alors que pas du tout, on est d'accord que tuer quelqu'un pour se faciliter la vie à soi-même, ça n'a jamais été un acte charitable. Du coup, voilà, ce que je viens de vous dire, c'est extrait d'une vidéo de Vivre Avec, qui est une youtubeuse dont je mettrai la vidéo en lien sur la page Facebook. Et c'est une militante anti-validiste, le validisme qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de défavoriser les personnes invalides dans notre société. Et on ne s'en rend pas compte, mais c'est une oppression très présente dont on entend très très peu parler. Et du coup, elle dénonce vraiment ce fait-là. Donc tous mes dires précédents proviennent de cette vidéo. Ce n'est pas moi qui les ai écrits. Je les ai juste neutralisés parce qu'elle est invalide. Elle souffre du syndrome des lèvres dans l'os et elle est assez bien placée et bien renseignée sur ce sujet-là. Et en voyant la vidéo de Anne Ratier et en voyant cette vidéo après, ça m'a vraiment sauté aux yeux le fait que vraiment personne se... Enfin, on trouve ça... C'est hyper intégré dans la société de faire un peu ce qu'on veut, quoi, des personnes handicapées de notre entourage et de décider de tout et n'importe quoi. Et j'ai trouvé ça très choquant. Et je sais que quand j'ai vu la vidéo, j'avais vraiment les larmes aux yeux, etc. Enfin, même, je suis pas là du tout pour parler de moi, mais juste, je trouvais ça intéressant. Donc voilà, j'espère que malgré que ce soit lourd et consistant,
c'était très bien. Merci Margot pour ce témoignage très poignant. Reste avec nous, tout de suite après nous aurons l'invité mystère pour notre interview et on se quitte tout de suite avec Ariana Grande. Some type of way, ain't just a feeling this way. I do not know what to say, but I know I shouldn't think about it. So one fucking look at your face, now I wanna know how you taste. Usually don't give it away, but you know I'm already thinking about it. It always happened to me. Why can't we just play for peace? Practically on my knees. But I know I shouldn't think about it. You know what you're doing to me. You're singing my songs in the streets. Acting all innocent, please. Cause I'm bored. You could hit it in the morning.
juice, I am tripping. If you feel like but you without me ain't right. You could call me crazy, cause I want you and I never even ever fucking met you. Say I'm tripping and it ain't right, but you without me ain't nice.
Sur Fréquence Mistral, vous écoutez Les Indignes sur 99.3. Rebonsoir.
Bonsoir.
Et c'est notre début de notre interview, de notre invité mystère. Alors tout d'abord, petit rappel. Alors, des températures alarmantes, des espèces en voie de disparition, réchauffement climatique, inaction de l'État. On entend ça tous les jours, de plus en plus, que ce soit à la radio, à la télé. Des nouveaux diagnostics, on peut dire ça, qui sortent, des nouvelles rubriques qui sortent, par exemple des rapports sur l'ONU. Le dernier rapport de l'ONU, c'est un quart des décès dans le monde sont liés à la pollution de l'air. Un dernier rapport est sorti hier en Europe qui parle que la pollution de l'air fait plus de morts que le tabac en France, dans le monde entier, qui est la cause de 9 millions de décès par an. Alors que le tabagisme est lié à 5 à 6 millions de décès. Donc je pense que je vous ai donné un peu le thème de notre interview, de notre invité surprise. Mais tout d'abord, bonsoir Mathilde.
Rebonsoir.
Donc on va parler de tout ce qui va être écologie, environnement et surtout des deux manifestations qui se sont déroulées la semaine dernière. Que ce soit la manifestation des jeunes vendredi et la manifestation spéciale des jeunes, manifestation pour le climat, la marche du climat qui s'est déroulée dans le monde entier et dans la France entière également. Est-ce que Mathilde,
exactement,
a deux, trois mots à nous dire sur ça?
Oui, donc c'est ce même combat qui a rassemblé plus de 100 000 personnes à Paris, ouais, dans un cortège qui est surnommé la marche du siècle.
Voire même un peu plus, oui.
Et plus de 350 000 dans 220 villes de France, selon les organisateurs.
Oui.
Et les préfectures de police, elles, évoquent plus de 36 000 manifestants dans la capitale, 8 000 à Montpellier, 2 500 à Marseille, 2 000 à Rennes, ainsi qu'à Strasbourg. Et à Lyon, le cortège a réuni 18 000 personnes selon les autorités et 30 000 selon les organisateurs. Donc ce qui est absolument énorme.
Énorme.
Là, on n'a pas compté toutes les petites villes qui ont organisé
ce qui marche aussi. Le principe. Donc c'est déjà énorme, oui, déjà, oui. Pour une marche pour le climat.
Ah oui, c'est énorme.
Est-ce que tu peux nous dire, on va faire juste un petit parallèle, sur tout ce qui était les slogans pendant cette manifestation, est-ce que tu peux nous dire les types de slogans qui ont été, pour que les auditeurs savent un peu.
Oui, j'ai relevé les meilleurs. Donc je vais en citer deux, trois que j'ai trouvé... assez sympa.
Oui.
Donc on a déjà une qui dit les dinosaures pensaient aussi qu'ils avaient le temps. Un peu plus peut-être déluré, je dirais.
Oui.
Vous gérez le climat aussi bien que nos clitoris. Ça m'a fait très rire, je suis désolée. vous voulez de l'oseille, nous on veut des abeilles.
Ouais.
Le second degré, c'est drôle pour le climat, beaucoup moins. On est plus chaud que les climats. Changeons le système, pas le climat.
Ouais.
Pas de climat, pas de chocolat. moins de degrés, sauf dans la bière. Et prenez le temps de réfléchir, mais pas sous la douche.
Très bien, merci Mathilde.
De rien.
Alors, notre invité surprise, bonsoir Philippe, monsieur
bonsoir.
Philippe Béraud.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, vous avez 63 ans, vous êtes tout d'abord enseignant au lycée Davinel de Digne-les-Bains. Vous êtes agrégé d'économie et gestion, vous enseignez l'économie et gestion. Et vous êtes aussi chargé, pendant vos temps libres, d'un collectif à Digne-les-Bains, le collectif des écologistes de Digne. Alors, tout simplement, bonsoir. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce collectif, en quoi il consiste, pour informer un peu nos auditeurs?
Là, il ne vous a pas échappé, d'une part, que On a des motifs aujourd'hui, les écologistes ou les citoyens d'une façon générale, de s'inquiéter de l'avenir de la planète, d'une part. Et d'autre part, nous sommes nombreuses et nombreux à penser qu'agir localement, c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut faire du bien à la planète en engageant des processus de décision et des actes au niveau local. Donc le but, en fait, hein, de la création de ce collectif, dont je suis ce soir le porte-parole, mais je partage oui. bien volontiers le porte-parole avec d'autres personnes, c'est de créer une convergence entre des gens finalement qui viennent d'horizons peut-être sans doute très différents, mais qui ont envie de traduire localement par des actes ce qu'on a envie de faire au niveau de l'écologie. Mmh. Voilà, donc en fait, il ne vous a pas échappé non plus que dans un an, il va y avoir des élections municipales.
Oui.
Et depuis quasiment 25 ans, sur Digne en tout cas, les écologistes ont toujours été présents lors de ces événements-là. Il y a eu également par le passé, j'en fais partie, des élus écologistes, notamment à la municipalité de Digne. Et la réflexion que l'on mène actuellement, avec aujourd'hui une quinzaine de personnes, on était 40 à la réunion qui a eu lieu salle Perchaud samedi après-midi, dans la foulée de la marche pour le climat,
oui.
c'est d'établir finalement un ensemble de propositions visant à créer les conditions, on peut le dire, d'une liste écologiste lors des prochaines élections municipales.
Très bien, d'accord. Et tout d'abord, un peu plus personnel, quand est-ce que ça a commencé, tout ça, ce collectif, mais également pour vous, cet intérêt, je ne sais pas, de climat, de l'environnement, ce déclic pour vous?
D'abord, l'histoire du collectif, elle est à la fois récente, parce qu'il y a des personnes nouvelles qui s'agrègent aujourd'hui pour le créer. Mais en fait, l'histoire de l'écologie politique, je viens de le dire il y a quelques minutes, dans le département, elle est quand même très ancienne. Ouais. Donc les gens qui sont aujourd'hui impliqués dans cette démarche, ce sont des gens d'abord qui se connaissent depuis très longtemps, mais qui se sont quand même largement mobilisés depuis 6 mois à travers les coquelicots. Vous avez dû entendre parler justement de ce mouvement qui est en marche, on dira, depuis 6 mois. Qui a réuni quand même 500 000 signatures dans une pétition et qui réclame l'interdiction des produits phytosanitaires, notamment dans l'agriculture industrielle. Donc voilà, en fait, il y a aujourd'hui des gens qui se réveillent, des gens qui sont prêts à se mettre en mouvement, des gens qui ont des motifs aujourd'hui de s'engager au niveau de l'écologie associative et politique, et qui se disent qu'à la fois agir sur le terrain à travers une association, c'est bien, à travers un mouvement, c'est bien, mais on le sait très bien que l'acte politique, c'est un processus qui permet d'accélérer la décision et de régler, en tout cas, bien des problèmes, notamment au niveau du climat et au niveau de ces produits phytosanitaires.
Très bien.
Alors juste pour mon histoire personnelle, hein, moi je suis engagé dans une association, et ça depuis très longtemps, hein, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux. Je suis ornithologue d'une part, j'ai cette passion, et comme d'autres, en tout cas ornithologues très présents sur le carrefour Blaine-Durance, on est 250 membres de la LPO au niveau du département, on se rend compte aussi, depuis quasiment une dizaine d'années, et de façon beaucoup plus récente, d'un affaiblissement des oiseaux, aujourd'hui des espèces d'oiseaux sur notre territoire, qui est relativement peu impacté par la destruction aujourd'hui des écosystèmes, mais qui s'en ressent malgré tout. Oui. C'est très net. Les insectes, les oiseaux, tout autant que les insectes, disparaissent, y compris dans des biotopes, je dirais, relativement protégés.
Très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé à l'instant des personnes qui... des regroupements et tout. Certaines personnes disent que tout est utilisé. Il n'y a plus rien à faire. C'est peine perdue. Les initiations personnelles ne servent plus à grand-chose, en fait. Et qu'il faut avancer en groupe, qu'en pensez-vous? Alors, on sait qu'aujourd'hui, vous avez dit, les politiques françaises donnent l'appui, en fait. Mais on voit très bien que tout ce qui était politique française ou politique internationale, nationale, ne peuvent pas faire grand-chose, soit par manque d'intérêt, soit de volonté, tout simplement, soit de sous, soit bloqué par des lobbies. Alors, comment nous, citoyens, on peut réussir à bouger, à faire quelque chose au-delà des démarches? On voit que, bon, ça se mobilise de plus en plus, bien sûr, mais comment faire, en fait? Est-ce que ça sert vraiment?
En fait, marcher, c'est bien.
Oui.
Agir, c'est mieux. Donc, être présent lors de ces événements, c'est extrêmement important. Ça montre que là, on est dans une mobilisation sans précédent, exceptionnelle. Moi, je l'ai dit samedi dernier, c'est la première c'est la deuxième manifestation mettant en valeur l'écologie dans cette ville. Et c'est sans doute la plus importante. Réunir 800 personnes, c'était pas une mince affaire. Et on est arrivé finalement à réunir ces personnes-là lors de cette manifestation. C'est un événement considérable. Moi, je considère que c'est un événement considérable. précédé la veille par la mise en marche, par la mobilisation des jeunes étudiants, autant en France qu'à l'étranger. Là, on est dans un processus aujourd'hui exceptionnel qui ne va pas s'arrêter, qui ne peut pas s'arrêter. Si on considère que les marches suffisent en elles-mêmes, il ne faut plus y aller dans ces marches à ce moment-là. Par contre, se dire qu'on sera de plus en plus nombreux dans les prochaines, ça, c'est vraiment important. Il y aura d'autres rendez-vous. Et après, pour répondre sur le fond à votre question, la première, c'est que les démarches individuelles, elles sont essentielles. J'agis tous les jours pour la planète, à mon niveau,
oui, bien sûr.
À mon degré de prise de conscience. Il y a des gens qui sont plus avancés, je dirais, dans la prise de conscience, des gens qui le sont moins. Ben, c'est très bien que les gens se mettent en mouvement, c'est déjà extraordinaire. La deuxième chose, c'est, on vient de le dire, ce sont les marches pour le climat. La troisième chose, ce sont les actions devant les tribunaux. Alors, ce soir, à l'heure où je vous parle, il y a quand même une décision extrêmement importante qui a été rendue aujourd'hui par un tribunal américain qui vient de condamner Bayer à Monsanto à d'énormes dommages et intérêts parce que ces produits-là ont empoisonné la vie des Américains dans leur ensemble, notamment d'une personne qui a 70 ans aujourd'hui, qui a utilisé le glyphosate pendant des années et qui est malade aujourd'hui. Et il y a des milliers de procédures aujourd'hui qui se passent devant les tribunaux américains. Alors donc, l'action judiciaire, elle est capable de faire fléchir aujourd'hui les juges. Sont des femmes, sont des hommes qui vivent comme nous, comme vous, comme tout le monde, et qui sont capables de prendre la mesure aujourd'hui des dangers qui pèsent sur l'humanité. Et les décisions aujourd'hui des tribunaux sont favorables justement à cette prise de conscience et condamnent les multinationales. Et ça, ce sont des moments historiques. Tout autant en France, hein, vous avez dû entendre parler des pisseurs de glyphosate.
Oui.
Hein, aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qui se réunissent dans des collectifs et qui demandent des analyses de leur urine. Et ici, hein, autour de cette table, je suis convaincu qu'on a toutes et tous dans nos cheveux du glyphosate,
oui.
Même si on fait attention à ce qu'on mange, etc. etc. Ben voilà. Donc là aussi, il n'est pas acceptable qu'on soit empoisonné par ces industriels. Vous voyez ? Donc cette démarche-là est également extrêmement importante. C'est un faisceau. Et on est dans une convergence aujourd'hui, dans une mobilisation aujourd'hui importante de la population à travers les médias, à travers les tribunaux, etc. etc. Mais aussi dans l'action politique. Alors moi, je parle en tant qu'écologiste, en tant que militant politique aussi. En Belgique, en Allemagne, en Hollande, aujourd'hui en Irlande, en Autriche, les partis politiques qui se revendiquent de l'écologie politique sont quasiment en tête de toutes les élections. Il n'y a pas de raison.
C'est déjà un pas, oui.
C'est déjà un pas énorme. Ouais. Voilà. Donc les choses changent. Alors peut-être pas assez vite. Peut-être que c'est trop tard aussi. J'en sais rien. Mais en tout cas, les choses vont dans le bon sens. C'est mon point de vue.
Alors, si vous faites des interviews... Ce n'est pas trop tard, mais il reste très peu de temps, 2-3 ans, 4-5 ans, souvent, selon les sondages, selon les personnes, pour réparer tout ce qui s'est passé depuis 20 ans. Hein.
Enfin, attends,
même plus, même plus de 50 ans.
Depuis l'ère industrielle, tout simplement. Hein. On a sacrifié la nature sur l'autel du profit.
Également. Autre question, vous êtes enseignant ?
Oui.
On l'a vu que c'était la première grosse manif médiatisée par les étudiants, les jeunes qui se sont pris en main, voire même plus que certains adultes des fois. Est-ce que vous, de votre côté, est-ce que vous ouvrez le débat au lycée ? Est-ce que vous faites par exemple de la pub, de la communication sur tout ce qui se passe ? Est-ce que vous avez ouvert le débat en fait sur cette marche du climat ? Est-ce que vous avez laissé les enfants, pas que manifester, mais vraiment ouvrir le débat, aller chercher vraiment... Est-ce que vous avez le temps à leur accorder un petit débat, je ne sais pas, par semaine, peut-être une fois avant la marche ou,
Oui, alors là, j'entends bien ce que vous dites. D'abord, il y a une chose, hein, c'est que moi, j'enseigne depuis 1982, hein, oui. Donc je suis à un an de la retraite, hein, il faut le dire. Et quand même, depuis quelques années, moi, je constate une chose, c'est qu'il y a une prise de conscience.
Oui.
Alors, de la prise de conscience aux actes de la jeunesse, c'est une chose, mais aujourd'hui, le débat intéresse tout le monde. La prise de conscience sur la fragilité des écosystèmes, sur la perte de biodiversité, sur l'empoisonnement de la Terre, sur les questions climatiques,
oui.
Je crois que même des gamins qui rentrent en seconde aujourd'hui au Davinel, qui ont 14-15 ans, sont au courant de ce qui se passe. Dans le détail, peut-être pas, mais oui. La prise de conscience, elle est réelle.
Et réelle.
Quand vous parliez de ça il y a quelques années en arrière... Au mieux, c'était l'indifférence. Au pire, c'était l'ironie. Aujourd'hui, les choses changent complètement. Complètement. Ça, il faut vraiment se rendre compte que... Et là, je pense que les politiques, en tout cas ceux qui gouvernent aujourd'hui, qui sont à la décision, à la manœuvre, n'en se sont pas rendus compte. La deuxième chose, c'est que vous étiez 250, 300 étudiants à manifester, étudiants à manifester vendredi dernier. Ça nous a fait un bien immense. Ça nous a fait un bien immense. Mais dites-vous bien que... Effectivement, tout le monde n'était pas à manifester. Hein. Il y a plusieurs milliers de jeunes lycéens et étudiants sur Digne. Mais moi, les questions que j'ai pu poser à mes étudiants que j'ai au lycée, en BTS comptabilité gestion, c'est pourquoi vous n'êtes pas venu manifester ? Donc, ils avaient plein de raisons de ne pas y aller. Mais ils n'étaient pas insensibles au fait que vous avez manifesté. Vous voyez ? Donc, ils étaient solidaires. Et ça, c'est une chose dont il faut avoir conscience. Hein, et qui est porteuse d'espoir. S'il y a des choses qui doivent changer, c'est vous, les jeunes, aujourd'hui présents autour de cette table, qui allez les changer. Vous avez la force, vous avez l'intelligence, vous avez la capacité de le faire, vous avez l'imagination, vous êtes connectés. Je pense qu'il faut compter sur vous. On a vraiment, vraiment besoin de vous.
Pour l'avenir. Très bien. L'avenir, parlons-en de l'avenir. Dernière question, comment vous imaginez, vous, l'avenir ? L'avenir, votre avenir déjà, l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Comment vous pensez que ça va évoluer, sincèrement, dans les prochaines années ? Est-ce que vraiment il y aura une prise de conscience au niveau des États ? Est-ce que vraiment on n'aura pas le choix, donc il faudra agir maintenant ? Ou est-ce que vous pensez que ça sera comme aujourd'hui ? Qu'il y aura quand même une prise de conscience, mais qu'on ne va pas faire grand-chose ? Qu'on va dire tous les jours qu'il faut changer, mais on ne changera pas ? On n'aura pas cet appui des politiques ? Comment vous imaginez-vous ?
D'abord, le combat qu'on mène, il est complètement légitime.
Oui. Hein,
il nous dépasse largement. On ne défend pas des intérêts personnels, ni des intérêts familiaux, même si on peut s'inquiéter pour nos enfants ou nos petits-enfants. Je crois qu'il nous dépasse complètement. Il est universel aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Il est complètement légitime. Donc, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on fera, c'est complètement légitime. Même si, effectivement, on s'enchaîne devant les sièges des multinationales, c'est complètement légitime. Il faut le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est que la fenêtre, elle est étroite. On ne s'en rend pas compte, on est bien ici, on a bien mangé aujourd'hui sans doute, tout va bien, on est chauffé, il y a de l'eau au robinet, tout va bien. Okay ? Seulement, il y a déjà eu 2 mois de sécheresse derrière nous. Là. Hein, donc il y a effectivement des facteurs qui nous montrent que les choses changent de façon imperceptible, mais elles changent. Le niveau de la mer monte de 3 mm par an. C'est pas rien. Sur un siècle, ça sera énorme. Et en plus, ça va s'accélérer. Et la fenêtre est étroite, c'est quelques années. Quelques années. Alors, dire comment cette histoire va se terminer, les plus pessimistes vous disent que dans 50 ans, c'est fini. L'humanité, entre 2020 et 2030, 2050, on dira, les catastrophistes, mais ils n'ont pas tout à fait tort. Jusqu'à présent, ce qu'ils disent, ça s'est produit, ça va mal finir. Ça, je ne vous le souhaite pas, hein, évidemment, hein, parce que vous méritez un autre avenir que les catastrophes qui s'annoncent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a les moyens de faire autrement. Moi, j'en suis convaincu, il y a plein de villes qui font autrement. Là, une ville à côté de chez nous, c'est la ville de Milan, qui est en train de planter des milliers d'arbres, en train de revoir complètement son urbanisme, de façon à faire en sorte que cette ville-là, elle vive mieux le réchauffement climatique, d'une part, qu'elle abaisse la température dans la ville de 2 degrés. Planter des arbres, c'est abaisser la température. Multiplier les voies cyclables, multiplier également les zones agricoles dédiées à l'agriculture urbaine. Donc, c'est changer les choses. Je pense qu'on a la capacité de changer les choses. À la fois, on doit être pessimiste, parce que, comme disait Gramsci, je préfère, moi, l'optimisme de la volonté au pessimisme de la raison. Okay. Mais y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire pour renouveler le monde. Alors, je pensais au bouquin de Macron lorsqu'il a été élu président. Il a écrit un bouquin qui s'appelait La Révolution. Hein. On ne doit pas parler de la même révolution. Moi, je pense qu'effectivement, on est dans une période révolutionnaire aujourd'hui. On ne va pas mettre l'État par terre, évidemment. Oui. Mais en tout cas, on peut mettre par terre les élus, les politiques qui ont gouverné le monde pendant des années, qui nous ont mis dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, à qui il ne faut quand même pas demander de trouver les solutions. Les solutions, ce ne sont pas les élus d'aujourd'hui qui vont les trouver, ce sont les élus de demain, que vous allez élire.
Donc on a des responsabilités, oui.
Et
mais
oui.
C'est pas fini. Merci déjà pour cette interview. Et on va finir sur un petit point positif. Est-ce que vous avez un dernier mot, monsieur Philippe Bon, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à la radio, à faire passer un message
Oui, parce qu'il y a quand même des choses extraordinaires qui se passent sur ce territoire. Il y a 15 jours, moi, j'ai eu le bonheur de voir passer 5000 grues cendrées au sud de Digne. C'est pas rien, dans une migration vers les Balkans. Donc la nature est belle. Elle nous montre tous les jours qu'elle est puissante, qu'elle est capable, en tout cas, de se remettre des méfaits qu'on commet à son égard, pour peu qu'on prenne les précautions nécessaires. Je pense qu'il faut rester optimiste. Ça, c'est vital. Et pour vous, mais pour nous aussi, hein, il faut rester optimiste. On a la capacité à être autrement que ce qu'on est. Ça demande un effort. Ça demande à réviser, finalement, en tout cas pour les États, à réviser leurs copies. Hein, c'est les leçons que donnent les étudiants aujourd'hui aux élus et aux décideurs. Voilà. Moi, je pense que l'optimisme, il doit être de nature et nous habiter pour que les choses changent dans le bon sens.
Très bien. Merci Philippe,
merci.
Bienvenue. Vous pouvez écouter cette interview sur Facebook, on mettra le lien en direct. Et restez avec nous tout de suite après la pause musicale. Nous aurons notre rubrique humour, info et divertissement.
I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger. You off of my mind. I know exactly what I have to do. I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm with somebody new. Oh baby, baby, I'm dancing with a stranger.
Et de retour sur Fréquence Mistral, nous terminons bientôt notre émission dans 10 minutes, mais avant cela, notre rubrique info décalée avec Max, les dernières infos des dernières semaines.
Alors, on va commencer avec l'info de la semaine. Oui, au Max. Japon, Kane Tanake, 116 ans, est la nouvelle doyenne de l'humanité.
Et oui, mais malheureusement, elle est japonaise. Hein. Si elle avait été algérienne, elle aurait pu être candidate à la présidentielle.
Maintenant, les gilets jaunes, violence policière, une main arrachée, une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.
Alors, l'enquête devrait être assez rapide, hein, parce que ça m'étonnerait que ce soit juste un fan de Jamel Debbouze qui a essayé de ressembler à son idole. Oh.
Société, le sommeil, les Français passent sous la barre recommandée des 7 heures.
Et oui, on ne dort pas assez en France, mais c'est une moyenne, attention, c'est une moyenne. Hein, parce que, par exemple, l'Allemagne, ça va beaucoup mieux. Hein. Vu que c'est une moyenne, eux, ils ont Michael Schumacher, donc ça aide un peu pas mal. Hein.
Religion, Vatican, accusé d'abus sexuels, l'ex-cardinal McCarrick, défroqué par le Vatican.
Et oui, et c'est la première fois, Maxime, la première fois, effectivement, qu'il a été défroqué par des adultes, hein, tout simplement. En bref, les brefs de la semaine, aux États-Unis, un coureur de cycliste de 90 ans contrôlé positif. Alors, l'avantage hein, des contrôles pour un sportif de cet âge-là, c'est que pour le prélèvement d'urine, après la course, on lui demande juste son slip. Hein. La deuxième brève, Max.
La deuxième brève, l'alcool est toujours responsable de 41 000 décès par an en France. Alors, d'un point de vue démographique, ça compense, vu qu'on sait que l'alcool est aussi responsable de nombreuses naissances en France.
Eh oui. Allez, on termine troisième brève de la semaine. De la semaine dernière même. Une petite ville aux États-Unis, Ellie Lincoln. C'est une chef de 3 ans qui a été élue comme maire. Et la mairie de Béziers porte plainte pour plagiat. bonsoir, Elora, sans transition. Bonsoir, Elora.
Bonsoir.
Alors, une petite rubrique sport pour terminer cette émission presque. Tu veux nous parler de qui?
Bah alors, je vais vous parler.
Ça m'intéresse.
D'une nouvelle qui a été assez surprenante et en même temps assez attendue, le retour d'un nageur
Florent Manaudou, donc un très très grand nageur français qui revient dans la compétition puisqu'il l'a annoncé hier au journal L'Équipe qu'il revenait, qu'il se remettait à la natation après un break de 3 ans.
Ouais, enfin, parce que l'handball ça lui réussit pas trop.
C'est vrai qu'il a fait une pause de 3 ans dans la natation pour se consacrer au handball, pour changer d'activité. Alors cette pause-là, il l'a fait après sa défaite aux Jeux Olympiques de Rio. Où il avait été.
Il était second,
il était arrivé un centième après son adversaire.
C'est un collègue Arcielo, non ?
C'est ça.
Et je pense qu'il avait été très, très déçu par ce titre de vice-champion olympique et ça lui suffit pas.
Ah oui, très mauvais perdant. Excuse-moi. Il aime que la gagne.
Faut persévérer, mon gars. Mais
il faut aimer la gagne pour être dans la compétition. Ah bah oui. C'est ça qu'il faut. Hein. Et voilà, il avait arrêté. Il y avait beaucoup de choses à Rio qui lui avaient déplu. Il a fait sa petite pause. Et puis là, il a annoncé hier qu'il revenait donc dans le monde de la natation, trop le monde bien. Des bassins. Donc,
mon chouchou.
Je pense que pour les fans comme moi ou comme Anto, on est tous très très heureux d'apprendre cette nouvelle. Et puis ça va même faire énormément de bien à la natation française, tout simplement.
La natation française,
avec le palmarès qu'il a, on peut plus trop se passer de lui, hein. Enfin, on pourrait, mais bon, ça fait plaisir qu'il soit là.
Ouais, ça fait plaisir. Surtout que la natation française, en ce moment, il n'y a pas trop de relève.
Ouais, couture.
On apprend des anciens nageurs qui viennent, comme Amaury Levaux, qui se prépare également pour les JO de Tokyo.
Pour le coup, ça fait vraiment longtemps qu'il a arrêté. Hein.
Non, mais il reprend.
Oui, bah justement,
c'est arrivé quelques fois dans l'histoire des comebacks qui marchent très très bien, mais ne serait-ce que Laure Manoudou qui avait fait un peu pareil que son frère il y a quelques années.
Oui, mais qui n'avait pas trop bien réussi.
Bon, c'est quand même
c'était pour l'idée. Alors, bon, Florent Manoudou, là, son objectif, c'est les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. Et puis, un peu plus tard, en 2024 à Paris, parce que ça serait quand même magnifique. De remporter un peu ses titres olympiques comme il l'a fait à Londres en 2012 à Paris, à la maison. Ouais,
mais malheureusement, c'est qu'il est marseillais. Hein.
C'est vrai, ça m'arrive de le croiser. Pour la petite anecdote, j'ai déjà croisé Florent Manoudou.
Ah, moi aussi en compétition.
Très impressionnant.
Et moi, Yannick Agnel.
On n'est pas là pour comparer. Non, mais voilà, tout simplement, moi, je voulais qu'on fasse passer cette nouvelle importante parce que bon, je trouve que ça concerne un peu. Peut-être pas la France entière, mais c'est bien
notre sport,
d'avoir
c'est
des sportifs comme ça qui nous représentent. Ça fait toujours plaisir.
Et je vais compléter ton info, Elora, parce que en ce moment, qui se prépare, c'est la nuit de l'eau. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce week-end-là.
Bah, je ne savais pas.
C'est une grande soirée, en fait, pour les nageurs qui se réunissent. Il y a plein d'activités
dans toutes les piscines de France.
C'est ça.
Waouh.
Non, il y a plein d'activités.
DJ, Projet X.
C'est ça. Ouais. Et alors pourquoi j'en parle, c'est qu'à Digne-les-Bains, il y a aussi la nuit de l'eau et il y a un invité exceptionnel, c'est Camille Lacour.
Non.
Alors, pour ceux qui sont là ce week-end, exceptionnel.
Il est trop beau.
Alors, je rappelle pour ceux, oui, c'est ça, à Digne-les-Bains, il y a un complexe merveilleux, il y a déjà des stages sportifs énormes, que ce soit de Marseille ou d'autres sportifs. Donc, Camille Lacour, je rappelle, champion olympique du monde et de France. Non, pas du monde, que champion olympique.
On a perdu Elora qui est couchée sur la table.
Et sa spécialité,
non,
c'est
déjà
parti
à la piscine. Ouais,
c'est le dos. Voilà.
Je vais camper devant la piscine en attendant qu'il arrive. Non, bref. Oui, mais si vous trouvez le temps d'aller à la nuit de l'eau, allez-y, c'est vraiment
sympa.
Attends,
mais on est obligé d'être sportif, parce qu'on ne peut pas y aller pour aller au hammam.
Entrer.
Non, mais il faut dire ski, on va parler des sujets.
Il y a des toboggans aussi.
C'est bien d'y aller la nuit de l'eau, il y a des activités, c'est pas forcément pour les nageurs, c'est un peu pour tout le monde.
Voilà.
C'est...
Puis ça change.
Mais c'est toute la nuit ou genre il y a des horaires spécifiques ?
Il y a des horaires spécifiques à se renseigner bien sûr sur l'UCPA piscine de Digne-les-Bains.
Ok.
En gros, c'est nuit de l'eau, mais ça ferme à 19h.
Non, c'est des fake informations, ça, donc allez voir sur le site.
Pour plus d'informations, évidemment. Bonsoir Max.
Salut.
Et Max, on va terminer par toi cette émission ce soir.
Oui.
Une info du net, notre bug du net, c'est toi qui nous l'a fait ce
exactement.
Soir.
Exactement.
Et de quoi tu peux nous parler
exactement? Je vais vous parler de la pédophilie sur YouTube. Parce
très
que
bien.
C'est un très gros problème.
Ah ouais. Dis-nous tout.
Parce que il existe des commentaires pédophiles sous des vidéos YouTube montrant des enfants. Donc le problème, il n'est pas nouveau, mais malgré les promesses de la plateforme, ce problème n'a toujours pas été réglé. Et c'est dimanche 17 février, un youtubeur anglophone du nom de Matt Watson en a fait la démonstration dans une vidéo de 20 minutes qui a rapidement dépassé le million de vues.
En fait, il y a des vidéos sur YouTube et les commentaires sont très...
Voilà, c'est ça.
D'accord.
On peut prendre l'exemple de Swan et nous.
Très explicite.
Voilà.
Très bien.
Il va expliquer, donc, selon ses mots... comment l'algorithme de recommandation de YouTube va faciliter la possibilité pour les pédophiles d'entrer en contact entre eux, d'échanger des informations sur les enfants et de publier des liens vers de vrais contenus pédophiles dans les commentaires. Donc en gros, le terrain de jeu de ces pédophiles, des vidéos d'enfants souvent publiées à l'origine par les enfants eux-mêmes, mais parfois copiée et remise en livre par les prédateurs. Donc ce contenu, le contenu des vidéos n'est pas pédopornographique. On va y voir des enfants faire de la gymnastique ou encore de la danse. Mais dans les commentaires, les prédateurs vont s'exprimer, ils vont complimenter le corps des enfants et ils vont indiquer les passages précis de la vidéo qu'ils vont juger les plus intéressants. En gros, par exemple, lors d'une roulade, une jupe qui se lève ou je sais pas. Ou, voilà.
On a compris.
On voit tous à peu près où tu veux en venir.
Donc, Matt Watson va souligner que l'algorithme de recommandation de YouTube propose automatiquement d'autres vidéos de ce type à toute personne en ayant déjà regardé une. Et c'est un problème récurrent parce que certains annonceurs ont depuis réagi en suspendant leur publicité sur YouTube, comme rapporte le média américain Bloomberg. Disney ou encore Epic Games ont retiré leur publicité de la plateforme. YouTube dit avoir supprimé 400 chaînes, des milliers de commentaires et des dizaines de vidéos mises en ligne avec des intentions légitimes.
Tant que ça ?
Ouais, mais mettant clairement des mineurs en danger. Ce n'est pas pourtant pas la première fois que YouTube est confronté à ce genre de problème. Déjà en 2017, le Times et la BBC avaient publié le même jour deux enquêtes à ce sujet. Les mêmes causes, hein, donc les mêmes conséquences. D'importants annonceurs comme Adidas ou HP avaient temporairement cessé de publier leur annonce sur YouTube. La plateforme avait répondu à la presse dans des mots quasi similaires à ceux d'aujourd'hui. Elle avait aussi annoncé qu'elle allait fermer l'espace commentaire des vidéos de mineurs dès lors qu'apparaîtraient des commentaires pédophiles.
Ouais. Très bien.
Mais YouTube n'a visiblement pas su appliquer ses propres règles qu'elles étaient promises en 2017. Et c'est en juin, le YouTuber français Le Roi des Rats avait par exemple publié sa propre enquête sur le sujet, montrant que le problème était loin d'être réglé. Il en a publié une autre récemment, visiblement en réponse à Matt Watson. Alors, est-ce que la vidéo de Matt Watson permettra-t-elle enfin de régler le problème ?
Ben j'espère, Max. Et on reviendra sur ce point-là dans quelques temps s'il y a d'autres nouvelles sur ça.
Et oui, Margot ? Si ça vous intéresse, celui-là, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo du Roi des Rats. Ça s'écrit comme ça se prononce. Et c'est un mec hyper perspicace qui analyse plein de phénomènes qui se passent sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, etc. Il fait un énorme boulot, c'est super cool. Et en gros, il avait fait des vidéos bien avant l'énorme scandale de l'Américain qui a fait une vidéo sur YouTube. Mais ça faisait déjà plusieurs temps que, en réalité, YouTube était au courant. Ouais, mais exactement. En tout cas, merci Max pour ça. Je trouve ça hyper intéressant.
Et le Roi des Rats, je trouve, c'est un YouTuber hyper intéressant parce qu'il dénonce.
Ouais, c'est ça. Il fait un vrai travail.
Pas mal.
Et pour revenir sur quelque chose qui n'a rien à voir, quand il parlait d'écologie, il disait que c'était aussi important, notamment d'aller voter.
Donc, on vient sur l'interview.
N'oubliez pas, si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales. C'est un peu une note à moi-même ce que je suis en train de faire parce que mes parents m'ont rappelé qu'il fallait que j'aille m'inscrire et je ne l'ai toujours pas fait. Mais du coup, c'est avant le 31 mars qu'il faut aller s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter aux européennes qui vont avoir lieu incessamment. Voilà.
Incessamment,
très bien, merci. Alors, on a un peu pris de court là, il nous reste quelques minutes. Est-ce que nous allons passer donc fin d'émission ? Merci à vous de nous avoir écoutés, bien sûr. On va passer aux dédicaces. Est-ce que vous avez quelques dédicaces en vitesse à faire ? On a deux minutes là. Mathilde.
Oui, moi je voudrais faire des gros bisous à mon parrain Étienne qui doit avoir un très beau zinzolin à côté de lui.
Merci, c'est sympa.
Dédicace à Alexia qui nous a emmenés.
Ah oui, les voitures qui sont toujours là pour nous, le chauffeur. Merci à eux.
Moi je voudrais une dédicace à mes parents et si je vous réponds pas par message, c'est parce que j'ai perdu mon téléphone dans mes 20 mètres carrés. Du coup, il faut que je le retrouve, mais tout va bien.
Et Laura ?
Moi je fais une petite dédicace à Stella parce que c'est ma marraine aussi, alors bisous.
Très bien, bisous Stella. Maxou,
dédicace à tous ceux qui nous écoutent en buvant de la binouze.
C'est une belle dédicace.
Nickel.
Et toi, Anto ?
Moi, dédicace à tous ceux qui m'en connaissent et surtout à nos enseignants, car ils nous écoutent.
C'est vrai.
Ils font sur nous pour ce soir.
Voilà. Madame Chalandon, pense à tous vos petits fruits qu'on a disséqués avec un immense plaisir et qu'on a tous mangés.
Et merci de nous écouter à chaque fois, c'est un réel plaisir.
Et n'oubliez pas, si l'émission vous a plu, vous pouvez la conseiller à vos amis, et si l'émission ne vous a pas plu, vous êtes les bienvenus pour la conseiller à vos ennemis. Et vous pouvez nous retrouver sur Snapchat, sur les-du-6-indignes, sur Instagram, sur lesindignes06, et sur Facebook, sur facebook.com/lesindignes06, où on vous retranscrira tous les documents culturels ou non dont on a parlé durant l'émission. Voilà, merci de nous avoir écoutés.
Très bien, prochain radio, le 3 avril.
Pas du tout, c'est faux, c'est la prochaine émission le 24 avril. Voilà, donc on se retrouve le 24 avril.
À plus.